Voilà, alors après ce qui vient d'être dit, les quelques propos que je voudrais tenir ont un côté un peu provocateur, puisque nous allons essayer ensemble de penser un monde sans frontières, et pas seulement de le penser, puisque il a réellement existé historiquement. Finalement, peut-être que ces propos sont complètement hors sujet, mais si vous pensez cela, adressez-vous avec vos plaintes à Jacques, parce que c'est lui qui, après nos conversations il y a quelque temps, a pensé que ça pouvait être intéressant de voir la façon dont cet exemple du monde nomade nous permettait, en tentant de penser une absence de frontières, de nous mettre dans une situation extérieure, c'est-à-dire de nous regarder nous-mêmes, si j'ose dire, d'en face. Comme vous savez, tous les systèmes sont clos, et pour les comprendre, il faut prendre une situation extérieure. C'est fondamentalement le sens de mon propos, c'est-à-dire moins de chercher à cerner de façon scientifique ou de connaître les nomades, que de voir un peu ce que ça représente pour mieux comprendre que la façon dont nous vivons les frontières n'était peut-être pas une donnée absolument, n'est certainement pas une donnée unique et n'était peut-être même pas une donnée historique absolument obligatoire, puisqu'on peut envisager une alternative nomade. Alors, pourquoi moi, parlant de cela ? Parce que mon domaine de recherche sont les nomades antiques. Ceci dit, je ne suis ni géographe, ni géopoliticienne, à peine historienne, puisqu'en fait, mon domaine est plutôt l'archéologie, mais même tout à fait l'archéologie et l'histoire de l'art. Donc, le point de départ, c'est qu'il est clair que dans le monde nomade, même actuel et résiduel, le système des frontières ne fonctionne pas de la même manière qu'ailleurs. Autrement dit, on a eu affaire à un immense territoire sans frontières internes et qui ne connaissait guère, à part les frontières naturelles, que celles posées justement, et c'est tout à fait dans notre sujet pour le coup, par les autres, et c'est tout à fait la photo qui a été montrée tout à l'heure, c'est-à-dire la Grande Muraille de Chine d'un côté, le limès romain de l'autre, qui historiquement ont été très largement construits, tout à fait pour la Grande Muraille de Chine, partiellement pour le limès romain, précisément pour cadrer ce monde nomade. Donc finalement, le postulat de départ, dont il me paraît qu'il n'est pas tout à fait artificiel, c'est que les générateurs de frontières territoriales matérialisées, puisque c'est de cela qu'on parle d'abord, sont toujours les sédentaires. Pourquoi ? Ça a été très bien indiqué tout à l'heure par Jacques, parce que qui dit frontière dit agglomération, dit ville, dit capitale, siège fixe du pouvoir, endroit fixe par rapport auquel le pouvoir se délègue à l'intérieur de la limite des frontières. De toutes les frontières, parce que là encore, comme on vient de le voir par ces quelques images, on peut distinguer deux types de frontières, ce que j'appellerais les frontières rondes, en boucle, en cercle, c'est-à-dire les frontières fermées qui défendent un groupe sur un territoire. Et d'ailleurs, vous savez bien que sur les cartes anciennes, les villes sont signifiées par des tours et des remparts. Et ce que j'appellerais les frontières droites ou les frontières linéaires, qui coupent en deux plutôt et qui défendent des blocs, je pense à la muraille de Chine, je pense au limès, je pense au mur de l'Atlantique, à la ligne Maginot, au mur de Berlin, au mur d'Israël. Enfin, donc c'est vraiment des coupures, c'est vraiment des sections. Autrement dit, la frontière est une manière de découper le monde de façon statique, de l'immobiliser, de l'épingler. Et donc, elle n'existe que pour des gens eux-mêmes fixés, et ceux qui établissent ces frontières le font dans un sentiment de légitimation territoriale, de propriété territoriale, donc évidemment dans le cadre de la sédentarité. Et en plus, même si tout à fait justement il a été dit que les frontières peuvent être mobiles et s'adapter aux situations, il n'en reste pas moins que dans un nombre important de cas, une frontière est établie pour être sinon éternelle, du moins durable. Or, on oublie une chose fondamentale, c'est que ce modèle sédentaire qui est le nôtre et qu'on a tellement intégré qu'on imagine difficilement qu'il puisse y avoir autre chose, il n'a pas été unique dans l'histoire de l'humanité. C'était, à un moment donné, une alternative et même un choix. Il y a le monomadisme et on est tellement aveugle qu'on n'a pas inventé le mot sédentarisme. Or, le sédentarocentrisme, si j'ose dire, est une espèce de forme moderne d'étrocentrisme. Et on a un phénomène comparable, par exemple, c'est une construction d'une certaine manière. On a un phénomène comparable avec ce qu'a été, comme ça a été très bien écrit par quelqu'un qui est Édouard Saïd et que beaucoup d'entre vous sûrement ont lu, la construction de l'orientalisme, de la science orientaliste pour l'Occident, a été une construction pour justifier sa supériorité et donc ses ambitions impérialistes coloniales. Alors évidemment, mon envie n'est pas de nier la civilisation urbaine. Il y a bien sûr une très grande civilisation urbaine, de même qu'il y a une très grande civilisation occidentale c'est un fait, mais qu'elle soit unique et supérieure à toutes les autres est au moins une question digne d'être posée. Deuxième point à comprendre, c'est que le nomadisme actuel est résiduel, c'est-à-dire que c'est un nomadisme désormais dans le cadre des États, même sur un des espaces les plus grands, livrés, si j'ose dire, au nomadisme et qui dispose d'une certaine autonomie, et qui est d'ailleurs dans l'endroit dont nous allons parler, je vais parler de la Mongolie. La mort du grand nomadisme, elle intervient dès le Moyen-Âge, elle est due avant tout à l'existence des États et des frontières. Elle est due également à l'invention des armes à longue distance qui permettaient de contrer l'espace qui était en fait, nous le verrons tout à l'heure, la frontière défensive du nomade. Elle est due plus que tout à la façon dont s'est imposé comme progressiste, supérieur, le mode de vie sédentaire, le pouvoir centralisé et territorial. Il faut absolument tenter de refuser le schéma qui est le nôtre, de la même manière que l'Occident a longtemps considéré l'Orient comme despotique, arriéré, irrationnel, etc. Nous avons tendance à considérer le monde nomade comme arriéré, primitif, d'autant que le nomadisme est souvent associé à l'absence d'écriture et que nous avons tendance à confondre illettrisme et inculture, ce qui, comme nous savons, n'est pas la même chose. D'autant que les nomades, par définition, n'ont pas de ville. Or, nous avons tendance, la langue le montre bien, à confondre urbanisme et urbanité. La dernière cause de la suppression du monde nomade, c'est bien sûr qu'ils ont été victimes de la rapacité des sédentaires pour s'emparer de leurs richesses. Regardez actuellement ce qui passe chez les Touaregs avec l'uranium. Ce qui se passe actuellement chez les Touaregs avec l'uranium, c'est passé également dans l'Antiquité avec le métal et l'or, qui ont, dans lesquels, dans la diffusion desquels, le transport desquels, les mines desquels, les nomades avaient un grand rôle et que les sédentaires ont voulu s'approprier. Nous avons donc des relations extrêmement ambivalentes aux nomades, qu'ils soient Touareg, Romanichel, Tsigane, Bohémien. Ils sont à la fois mystérieux et fascinants et on doit tous reconnaître que, par exemple, les Roumains roms sont carrément connotés négativement auprès de beaucoup de gens. Or, il se trouve qu'il y a eu un grand nomadisme historique qui n'est pas celui des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, mais qui résulte d'un choix de gens qui avaient connu la révolution néolithique, qui savaient ce que c'était que l'agriculture, qui avaient vécu dans des villages, dans des bourgs et peut-être même dans des villes, mais qui, à un moment donné, quand ils ont eu à développer une des branches sédentaires, c'est-à-dire l'élevage, ont décidé de laisser de côté complètement l'agriculture pour se consacrer entièrement à l'élevage, en l'occurrence pour les nomades dont je vais parler, en utilisant cet immense réservoir inexploité d'herbe qu'est la steppe. La grande steppe, c'est d'ailleurs un phénomène, on pourrait faire des parallèles avec la grande prairie américaine, je ne les ferai pas, j'en reste dans mon domaine qui est la steppe. Ils ont commencé probablement, cette coupure se passe au début du premier millénaire avant notre ère, probablement ont-ils commencé à transhumer en famille, à se rendre compte que finalement on vivait très bien avec son troupeau, puisque le troupeau, ça procure la nourriture, le lait, la viande, ça procure le vêtement, la laine, la peau, ça procure les tendons, enfin on peut vivre en autarcie avec un troupeau. C'est une chose que nous avons du mal à penser visuellement, ce qu'a pu représenter la grande steppe antique du Danube au fleuve Jaune. Parce que il faut bien qu'on reconnaisse chacun que si on essaie de visualiser cette carte de l'Europe et de l'Asie, on la visualise sûrement de façon scolaire avec des découpages politiques. Et néanmoins, si on est sincère, je pense que beaucoup d'entre nous auraient du mal à décider très très précisément les frontières du centre de l'Asie. C'est-à-dire qu'on voit bien la frontière de la France, elle est claire, l'Allemagne, la Belgique, peut-être même à peu près la Chine, et puis il y a une espèce d'entre-deux qui est une sorte de tâche un peu indifférenciée, dans nos têtes en tout cas. Et finalement, cette espèce de grande mer des herbes, ça a été une zone tout à fait fondamentale pour les échanges, précisément Europe-Asie, puisque bien avant la route de la soie, qui est une route de sédentaires, qui est une route défensive, et qui est une route qui se met en route, justement, quand sont créés deux empires, qui sont la Chine et Rome, c'est-à-dire finalement déterminée par la Grande Muraille et par le Limès, bien avant donc cette route des caravanes, il y a eu des échanges extrêmement précoces. L'archéologie montre actuellement, les fait remonter de plus en plus loin, Et de toute façon, en tout cas, à partir de l'émergence de ce nomadisme au début du premier millénaire, il va durer des siècles et des siècles, certainement jusqu'au début de notre ère sous la forme des Scythes et des Sarmates, et même après sous la forme des nomades de l'Est, c'est-à-dire des nomades mongols et turcs. Ceci, encore une fois, cadré par l'existence d'empires comme l'empire perse achéménide, de cités comme les cités grecques coloniales avec lesquelles ces nomades peuvent être en contact, de la Chine, de l'Empire romain, bref, c'est un entre les empires d'une certaine manière. Alors ces nomades, pour faire vite, et parce que ce n'est pas tellement eux qui m'intéressent, mais qu'il faut bien leur donner un nom, je les appellerai les Scythes. En réalité, au sens propre du terme, on ne devrait appeler Scythes que ceux de la frange occidentale de la steppe, c'est-à-dire ceux qui recouvrent le territoire actuel de l'Ukraine, grosso modo. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si l'Ukraine, la racine du nom de l'Ukraine veut quand même dire bordurie, comme nous le savons si nous avons lu Tintin, et même si nous ne l'avons pas lu. Étymologiquement parlant, c'est tout de même ça le nom de l'Ukraine. Mais nous les appelons Scythes. Pourquoi ? Parce qu'on appelle toujours l'étranger d'un nom global qui nie sa diversité. Par exemple, on va chez l'Italien du coin chercher du café après 10 heures dans les grandes villes, qui a toute chance d'être un arabe, et même pas un arabe, mais un berbère, etc., etc. Par exemple aussi, on dit les maghrébins, puis on ne fait pas de quartier. On dit aussi les noirs, et peu nous importe quelle ethnie il est. De la même manière, désigner le Scythe pour l'Antiquité, c'était désigner l'autre. Et la meilleure preuve, c'est que dans les langues iraniennes, on les appelle Saka, mais c'est les mêmes. En chinois, on les appelle Sai, mais on les voit toujours à sa porte, si vous voulez, comme l'autre absolu. Alors, qui était-il et pourquoi cette appropriation de la steppe qui était la leur? Parce que c'était des cavaliers, et avant les cavaliers de l'histoire, après tout, il y avait une cavalerie perse, grecque, romaine, ils ont été, à l'aube du premier millénaire, les premiers à développer une cavalerie montée, hein, j'entends bien, je ne parle pas de la domestication du cheval, bien sûr, une cavalerie montée qui en a fait des espèces d'aristocrates de l'appropriation de l'espace, et du reste, on pourrait tracer un fil tout à fait intéressant entre cavalerie et chevalerie, mais enfin, c'est une autre histoire, encore qu'elle concerne les frontières. C'était donc des cavaliers, c'était des éleveurs, ce qui, comme je vous l'ai dit, les rendait autonomes. Ils étaient avec leur famille dans des chariots, plutôt d'ailleurs que dans des tentes qui sont apparemment intervenues plus tardivement, et ils parcouraient dans ces chariots la steppe en ayant, d'une certaine manière, tout avec eux. Alors, les modes de nomadisme étaient divers, là encore, je vais rapidement là-dessus. Il y avait un nomadisme vertical sur lequel je m'arrête un peu, parce qu'ils étaient dans un monde sans frontières, mais il y avait tout de même des territoires de pâture, c'est-à-dire que les frontières n'étaient pas matérialisées, les espaces pouvaient être partagés entre divers tribus, mais chacun savait très bien à quelle saison quel troupeau devait être là, en fonction de l'herbe, en fonction du troupeau, et d'ailleurs encore maintenant en Mongolie, on désigne les bouches sèches, les bouches humides, enfin suivant l'herbe qui est mangée à quel moment et par quel animal. Si je parle aussi de ce nomadisme vertical, qui est un peu plus qu'une transhumance, comme celle qu'on connaît dans le Vercors, c'est parce que, encore maintenant, c'est quelque chose que j'ai même eu l'occasion de voir, par exemple dans le Xinjiang, vous avez de très hautes montagnes où l'habitation, plus exactement, s'entremêle à la verticale. C'est-à-dire que dans les vallées, vous avez les sédentaires et semi-sédentaires ouïghours. Un peu plus haut, vous avez les Kirghizes qui font l'élevage de moyenne montagne. Et tout à fait en haut, là où les conditions sont les plus dures, vous avez les Mongols. Donc ils cohabitent, ils coexistent, mais sur un territoire à la verticale. L'espace de la steppe, alors bien sûr, il y a des circuits, des boucles de nomadisme, et puis quand la situation se dégrade, quand il y a une sécheresse, quand l'eau disparaît, quand l'herbe n'est pas bonne, vous pouvez avoir des migrations, ou aussi d'ailleurs ces migrations peuvent être motivées par la séduction tout de même qu'excite la richesse des sédentaires, et à ce moment-là vous avez des mouvements qui peuvent amener à ce que nous appelons d'un regard bien sédentaire les grandes invasions, dont nous sommes d'ailleurs quand même tous plus ou moins issus si nous regardons nos ancêtres à la verticale. C'est bien rare s'il n'y a pas un Alain dans le schéma. On appelle ça les grandes invasions, alors qu'on ferait mieux de l'appeler, comme le font d'ailleurs certains autres peuples, les grandes migrations. Donc voilà, il y a cet immense espace de la steppe, sans chemin, ni ville, ni champ labouré. Il y a cet horizon vierge, cet océan, cette mer des herbes, comme disaient les Arabes, avec ses courants, ses tempêtes, ses tourbillons, ses conflits, bien sûr, mais qui ne sont pas territorialement matérialisés. Et alors évidemment, ça nous amène à une image un peu romantique, mais partiellement fondée tout de même, du nomade comme étant complètement libre avec l'espace devant lui et le ciel au-dessus de sa tête, à défaut de loi morale au fond de son cœur. Donc une société d'hommes libres, et ça a été tout de même souligné dès l'Antiquité, c'est-à-dire que les mêmes auteurs antiques qui faisaient des nomades, scythes, des barbares cruels, qui coupaient la tête de leurs ennemis, etc., des gens qui détruisaient tout, oui, bien sûr, ils coupaient la tête de leurs ennemis, mais ce n'est pas l'apanage des nomades que de tuer. Et on sait très bien que si on fait le compte des morts des conflits de l'Antiquité, je ne pense pas que les nomades en aient fait plus que d'autres, et je serais même portée à penser dans ma sympathie pour eux, ils en ont fait plutôt moins. Et donc cette ambiguïté, il y avait ça d'un côté et de l'autre, presque dès Homère, en tout cas sûrement chez Hérodote, et puis il y a tout un courant de pensée qui voit dans ces sites au contraire des sages, c'est le cas par exemple dans une pièce de Voltaire, enfin j'entends dans l'imagination, hein, enfin, dans l'image qu'on en a évidemment, c'est le cas de Voltaire, c'est le cas de La Fontaine avec le laboureur Cid, c'est le cas aussi du plus célèbre des sites pour les enfants français du 19e et du début du 20e siècle, à savoir le jeune Anacharsis, le site de l'abbé Barthélemy qui va visiter la Grèce. Alors pourquoi, puisque c'était des gens si bien, ont-ils été la raison des premiers systèmes de défense territoriale, alors même que cette économie nomade, si elle est autarcique et autonome, est tout de même complémentaire à certains égards de l'économie sédentaire, d'ailleurs bien plus pour les sédentaires que pour les nomades. Pourquoi a-t-on construit la grande muraille de Chine, qu'on a vu tout à l'heure, mais qu'il faut sans doute s'imaginer dans la réalité antique, je dis bien, non pas comme le mur qui nous a été montré à l'écran, mais par des levées de terre plus ou moins renforcées par endroits. Cette grande muraille, elle a été double, comme toujours, c'est-à-dire qu'elle a bien sûr été élevée contre les barbares du Nord, c'est-à-dire les nomades qui risquaient d'envahir la Chine et qui de temps en temps venaient faire des razzias sur les villes et villages frontaliers. Mais elle a été aussi élevée parce que l'empereur de Chine, enfin l'un des états féodaux chinois qui à l'époque prenait le pas sur les autres, a décidé un bon jour de supprimer les frontières entre les états féodaux, de se constituer un territoire plus grand et de matérialiser l'opposition nous et les autres précisément par la Grande Muraille. Donc c'est aussi un instrument de pouvoir, c'est pas seulement une défense. Voilà ce que c'est une construction contre, comme toutes les constructions de frontières en partie. Pourquoi donc les nomades ont-ils représenté un tel danger pour les États? Je ne parle pas du Limège parce qu'il en sera question par ailleurs. C'est bien sûr à cause des razzias. C'est aussi parce qu'ils étaient hors d'atteinte, ingérables, fluides, diffus. Mais c'est enfin, je le crois profondément, parce qu'ils représentaient un modèle de société incompréhensible. Incompréhensible, ce non-enracinement territorial d'un groupe, c'était quelque chose d'inconcevable et donc de dangereux. Et d'ailleurs, je fais un petit excursus, on peut penser que ce non-enracinement territorial est une composante historique de l'antisémitisme. Un groupe qu'on ne peut pas rattacher à un territoire, un groupe diffus, est invincible parce qu'on ne peut pas l'affronter, parce qu'il n'y a pas de ligne de front. C'est moi qui grésille. Bon. Ah, pardon. Et ils sont redoutables par cette fluidité, encore une fois, on ne peut pas les attraper. Du reste, il y a deux choses qui me frappent, c'est pour ça que je parle de l'antisémitisme, c'est parce que, comme vous savez, on distingue en Europe un groupe ashkénaze, or ashkénaze c'est Ishguzaï, et c'est le nom des sites dans les langues sémitiques, et l'autre c'est séfarade, or séfer c'est le chemin, et donc c'est ceux qui voyagent. Donc vous voyez que c'est confirmé dans les mots eux-mêmes. Donc, je pense que ce qui a effrayé les sédentaires, c'est cette société non territorialisée par des limites fixes, non centralisée, non urbaine. Et pourquoi non urbaine? Bien évidemment parce qu'elle n'est pas agricole et qu'elle refuse l'agriculture. Je ne vous apprends rien en vous disant que les frontières matérialisent une sédentarité originellement liée à l'agriculture. Les villes et les premières organisations politiques, que ce soit en Mésopotamie, en Égypte ou en Chine, sont issues de l'agriculture, issues de la production des céréales et le plus souvent issues de la nécessité de maîtriser l'eau, de la maîtrise de l'eau et de l'irrigation. Les nomades, eux, bien sûr, sont soumis à la loi de l'herbe et de l'eau, mais ils y sont soumis. Ils ne cherchent pas à transformer la nature. Ils vont au-devant de la nature pour l'utiliser au mieux. Donc, pas d'irrigation, pas de gestion territoriale, pas de politique, pas de ville, pas d'État. Et c'est maintenant à cela que je voudrais venir, parce que c'est quelque chose qui nous est difficile de concevoir et qui me paraît être un exercice mental salutaire. C'est à une opposition que je vais sûrement forcer un peu, hein, mais je fais exprès, parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dire la vérité sur les nomades, c'est de nous faire comprendre à tous qu'on n'a pas raison, c'est ça plutôt. Donc je vais essayer de développer cette exposition entre ville et non-ville. Donc qu'est-ce que c'est que la ville? Elle est derrière ses remparts, issue de l'agriculture. Ville et non-ville ont un autre rapport profondément, non seulement à la société et aux politiques, mais aussi au temps et à l'espace. Alors on va essayer d'opposer un monde clos, un monde défendu par ses remparts, avec un monde ouvert où le campement, l'approche du campement et le fait que vous rentrez la porte, si vous voulez, est immatériel, puisqu'encore maintenant dans la steppe, les campements sont signalés par l'aboiement des chiens. Quand les chiens commencent à aboyer, vous savez que vous êtes sur le territoire. Donc c'est quelque chose de complètement immatériel. Alors ça, une conséquence, me semble-t-il, c'est que la porte, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est quand même ce qui permet de laisser entrer, mais ce qui permet aussi de ne pas laisser entrer. Autrement dit, c'est la méfiance de qui peut venir de l'extérieur. Et vous savez très bien ce qu'ont été historiquement le phénomène des portes des villes qui filtraient l'arrivant et qui essayaient de rejeter le vagabond, le pestiféré et tous les autres. À l'opposé, dans la steppe, encore maintenant d'ailleurs, la tradition est celle de l'hospitalité. Quelqu'un arrive, on l'accueille. C'est la première chose qu'on fait. Après, on s'explique, mais d'abord, on l'accueille. Entre parenthèses, je pensais en regardant la porte de Die et les frontières, enfin ce que je dis des frontières, c'est tout à fait intéressant parce que si on y réfléchit bien, dans le monde actuel, les frontières, elles sont au milieu. Regardez à Paris, maintenant la frontière, c'est Châtelet parce que c'est là qu'arrivent les RER qui viennent de toutes les banlieues. Donc on a une espèce d'inversion qui est tout à fait intéressante parce que socialement, la frontière est arrivée au milieu. Peut-être qu'à Die, la frontière, c'est sûrement pas la gare compte tenu de l'endroit où elle est, mais c'est peut-être le lycée et l'arrêt des cars. Enfin, je ne sais pas, il faudrait voir. Donc, dans la ville, ou en tout cas autour de la ville, vous avez une gestion imposée de l'espace qui donc détermine des lois. Alors qu'encore une fois, je l'ai dit, chez les nomades, c'est au contraire l'espace qui commande, la pâture qui commande. Donc, encore une fois, j'insiste sur cette économie de partage qui est celle des pâtures. L'espace, en plus, pour les nomades, c'est leur défense. C'est-à-dire que là où il y a la muraille chez les sédentaires, vous avez chez les nomades d'abord l'arc qui permet de toucher les gens sans les atteindre, avec le vide entre l'ennemi et le tireur. Et puis, ces fameuses tactiques décrites déjà dans Hérodote et décrites tout au long de l'histoire, qui est que les nomades sont inatteignables parce que le conquérant s'avance et il recule. Et finalement, le conquérant s'enlise dans l'espace, alors que le nomade, lui, est maître de l'espace. Autrement dit, pour le nomade, la frontière, c'est l'espace. Il en joue comme du frontière défensive. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les armes à feu ont été tellement efficaces pour les juguler. Hérodote, que je ne peux pas ne pas citer, le disait déjà, je cite, « Des gens qui n'ont ni ville ni muraille construite, mais qui sont tous des porte-maisons et des archers à cheval, qui ne vivent pas du labourage mais de leur bétail, qui ont leur habitation sur des chariots, comment ces gens-là ne seraient-ils pas à l'abri des combats et impossibles à joindre ?» Donc, les nomades étant invincibles, il faut s'en défendre en construisant les murailles. Autre différence, mais je vais aller vite parce que je ne veux pas outrepasser mon temps, la steppe, enfin cet espace-là, c'est le domaine de l'œil. Dans la steppe, vous voyez, et quand vous entendez un danger, il est trop tard. Il faut d'abord l'avoir vu. Et d'ailleurs, c'est très frappant, parce que si vous regardez attentivement des images de nomades mongols ou kirghizes, ils sont à cheval, et la seule chose qu'ils ont, ce n'est pas une arme, c'est des jumelles en général. C'est vraiment l'œil. Alors que dans la ville, on entend ce qu'on ne voit pas. On entend au-delà des murs, et c'est l'oreille finalement qui vous informe. Là où il y a une frontière, c'est l'oreille qui vous informe. C'est un postulat qui n'est peut-être pas vrai, faudra voir. Là où il y a des frontières, en tout cas des murs, c'est l'oreille qui vous informe. Dans la steppe, c'est l'œil. Donc, inversion des valeurs. En plus, les sédentaires urbains, ils ont, comment dirais-je, accumulé le temps dans une verticalité que les archéologues traduisent en termes de stratigraphie. Et généralement, d'ailleurs, l'accumulation, c'est des accumulations d'ordures, il faut bien le dire. Et ce que fouillent les archéologues, c'est souvent, finalement, enfin assez souvent, des fosses de déblais. Donc, pourquoi ils accumulent le temps? Parce qu'ils accumulent le temps de l'attente. Il faut qu'ils attendent, semer, ça germine, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et la nature est complètement médiatisée quand le blé arrive sur le marché à l'intérieur des enceintes de la ville et sous forme de grains. Alors que les plantes, tout le reste, le monde, il y a une espèce d'immédiateté du rapport du nomade, en tout cas antique, au monde. Alors ça a des incidences culturelles, puisque, évidemment, l'histoire s'inscrit dans la ville, non seulement en accumulation, mais en monument voulu. Le consul laisse son pilier, Mitran laisse sa grande arche, un autre laissera... Bref, ce sont des monumentum, des monuments, et comme chacun sait, monumentum en latin, c'est monere, c'est-à-dire avertir, et c'est donc des avertisseurs. cette verticalité. Le monde des frontières, le monde de la ville vit d'une certaine manière à la verticale, le monde nomade vit à l'horizontale. Alors, autre conséquence naturellement tout à fait importante, c'est la stratification des biens, l'accumulation des biens et le sens de la possession individuelle. En plus, la ville est une formidable machine à concentrer, mais une machine qui dématérialise les biens, et c'est bien sûr la ville qui invente la monnaie. Pourquoi est-ce que la monnaie est inventée? Parce qu'on ne peut pas laisser les troupeaux à l'intérieur des remparts, donc on les envoie à l'extérieur, mais il faut savoir combien on en a, et si on les vend, on n'a pas besoin de les faire rentrer dans la ville, mais on commence à avoir des petits cailloux qui représentent les têtes de troupeaux, et finalement, au troc se substitue la monnaie. D'ailleurs, quand vous avez des ennuis pécuniaires, pécus, comme chacun sait, c'est le troupeau, donc ça veut dire que votre troupeau n'est pas en ordre, et les mots, si vous voulez, le vocabulaire dit bien les choses. Les nomades, eux, ont une économie directe, une économie de troc, pas d'accumulation. Et c'est bien sûr la ville, et donc la frontière, qui génère le capitalisme, si je vais beaucoup plus loin. Ce que je vais dire est intéressant, parce que je viens de me rendre compte en lisant le résumé de Michel Brunier, que sa conclusion, qui parle des Grecs, qui ne sont certainement pas des nomades, tout au contraire, est la même que la mienne, c'est-à-dire une grande importance de la personne. Je ne doute pas que la personne ait été importante dans le monde grec, mais je pense que la personne, à certains égards, était importante aussi dans le monde nomade, et ne serait-ce que la personne physique. Et j'en donne un exemple, c'est le tatouage. Tout à l'heure, tu nous as montré le derme, l'épiderme et la peau. C'est tout à fait intéressant de voir que dans les peuples de l'Antiquité, ceux qui étaient tatoués, c'était les nomades, comme si, de la même manière que les femmes portent sur elles leurs parures, leurs bijoux sous forme transportable, de la même manière d'ailleurs qu'elles les portent souvent en démonétisant la monnaie, c'est-à-dire qu'encore maintenant, si vous voyez des femmes turkmènes, elles ont des tas de breloques, et si vous regardez bien, il y a des petites pièces, des copecs d'avant la révolution, etc. Autrement dit, elles se moquent de l'argent en le transformant en bijoux, enfin, elles déplacent comme ça l'argent. Le tatouage, c'est un peu du même ordre, donc les scythes pratiquaient le tatouage, alors que dans le monde moderne, pour les Grecs, c'était l'horreur, hein, c'était la marque de l'esclavage et de l'infamie, et même jusqu'à une date récente où c'est redevenu à la mode, mais c'est peut-être parce que le monde redevient nomade, le tatouage, comme vous savez, était la marque des bannis, des asociaux, des transfuges, tous ceux pour qui il y avait des frontières sociales abolies, par exemple les marins, les prostituées, etc. C'était ça le tatouage. Donc c'est aussi une remarque comme ça intéressante. Peut-être que si les adolescents se tatouent, c'est pour franchir la frontière d'une certaine manière. Donc voilà, finalement, à quoi mènent ces constats que peut-être, qui sont un peu hypothétiques, hein, on vérifiera après, mais quand même en gros ça ressemble à ça. Pourquoi est-ce que les nomades sont libres? Sans doute parce qu'ils échappent au rouage du pouvoir. Par exemple, ils prélèvent l'impôt auprès des sédentaires, je pense au Yassak à l'époque des débuts de la Russie, mais eux ne le paient à personne. Ils n'ont pas de pouvoir centralisé, ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de clergé, ils n'ont personne pour faire observer la loi. Ils ont certes, ils peuvent ensuite se convertir, mais leur mode d'approche du religieux n'est pas du tout un mode d'église ni même de croyance. C'est d'abord le chamanisme, c'est-à-dire de trouver un médiateur entre la nature et la société. Ce à quoi évidemment tout cela nous mène, c'est au problème du lien entre pouvoir et frontières qui me paraît évidemment essentiel dans notre, dans nos rencontres. Je ne sais pas si c'est un postulat, mais en tout cas c'est au moins un constat. Il n'y a pas de pouvoir durablement établi possible sans frontières et sans centralisation territoriale. Pas d'administration politique, militaire ou religieuse. Il peut y avoir des clans, il peut y avoir des chefferies qui peuvent se fédérer chez les nomades sur une échelle énorme. On pense à Jean Giscan, pour prendre l'exemple le plus célèbre, mais ces chefferies disparaissent avec la personne du fédérateur. Elles ne peuvent pas se maintenir historiquement. Un état nomade, c'est un oxymoron. D'ailleurs, état, c'est un état fixe. Et nomade, c'est nomade. Ça n'existe pas. Et même le beau nom d'Empire des steppes de Grousset, on pourrait discuter. Il n'y a pas d'empire des steppes, et comme l'a dit un des conseillers d'Ogodei, qui a été un chef mongol, l'empire se constitue à cheval, il ne se gouverne pas à cheval. Et historiquement d'ailleurs, tous les nomades qui ont constitué des empires les ont constitués au prix de leur sédentarisation. Je pense à l'empire perse, puisqu'après tout les perses sont des nomades à l'origine, les mèdes et les perses. Je pense à l'empire parthe, je pense à l'empire kouchan, puis moghol qui a été jusqu'en Asie centrale et en Inde. Je pense à l'empire turc. L'empire commence à exister à partir du moment où il sédentarise. Donc qui dit non frontières dit non pouvoir. C'est mon postulat, on peut le discuter après. Et d'ailleurs, dans les cartes du monde antique, c'est très net parce que vous avez ces espèces de flaques de couleurs bien établies, la Perse et Satrapie, les royaumes hellénistiques, les provinces de l'Empire romain. Et puis, au milieu, il y a un vide. C'est quand même assez intéressant. Voilà, donc c'est plutôt, comment dirais-je, une espèce d'hypothèse de travail sur le lien entre frontières et pouvoir et une espèce d'autre manière de regarder la frontière comme ce qui est bien sûr le lieu des échanges, mais aussi le lieu de la limite du pouvoir. Je parle bien sûr de frontières territoriales, mais ce que je n'ai peut-être pas assez dit, c'est que ce monde nomade des steppes était un monde multiethnique. Il y avait des Indo-Européens, des Turcs, des Mongols, pluriethnique et aussi plurilinguistique. Enfin bref, ce n'était pas un monde homogène, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, c'était un monde relativement égalitaire, et c'était aussi un monde d'ailleurs où il y avait une certaine parité hommes-femmes, les uns prenant la relève de l'autre. Et si vous me dites, vous aurez raison, que les Scythes tuaient leurs femmes pour qu'elles les accompagnent dans leur tombe, c'est parce qu'ils voyaient les choses de manière un peu différente de nous. Et puis du reste, c'est dans la mort, hein. C'est pas dans la vie. Dans la vie, dans l'Antiquité, les textes le confirment, la femme et l'homme avaient une beaucoup plus grande parité, d'où le mythe des Amazones d'ailleurs. Pour les sédentaires, c'était l'horreur absolue. Ces femmes à cheval qui se conduisaient comme des hommes était une sorte d'épouvantail. Et c'est vrai encore même maintenant dans le monde moderne, si vous allez dans un Orient qui connaît le nomadisme, si vous voyez une femme nomade arriver sur un marché, elle arrive avec une espèce de démarche de reine et un sentiment de totale liberté, le visage découvert. Enfin, c'était vrai jusqu'à une date récente en Afghanistan par exemple, alors que les autres femmes sont voilées et se tiennent à carreaux sous la coupe de l'homme. Alors tout ça peut paraître complètement passéiste et on peut dire à quoi bon parler de tout ça, puisqu'au bout du compte, le monde n'est plus ce qu'il était, nous sommes tous des sédentaires pour deux raisons. D'une part, pour que nous prenions conscience de ce qu'implique notre sédentarité, ça j'espère avoir essayé de le faire. Et la deuxième raison à laquelle je songe, compte tenu de ce qui sera la discussion finale de notre rencontre, c'est que ça a eu, la conception de ce monde sans frontières, une incidence sur la plus brûlante des géopolitiques, la plus brûlante des actualités politiques. En effet, cette bande des steppes, elle a gommé la frontière entre Europe et Asie, en soulignant l'homogénéité géographique entre Europe et Asie, où effectivement, il n'y a pas de frontière naturelle infranchissable. L'Oural est très franchissable, il y a des déserts qui d'ailleurs dans l'Antiquité étaient moins désertiques, il y a des fleuves mais ils gèlent l'hiver et on peut les passer, même ce que les antiques appellent le Bosphore cimmérien, c'est-à-dire le détroit de Kerch entre la Crimée et la Russie, tout ça, ça se passait à pied l'hiver. Sur cette réalité d'une homogénéité de la steppe s'est greffée une perception russe du pouvoir, une construction russe qui s'est attribué la vocation d'unifier l'Asie et l'Europe. Les Russes se sont toujours sentis dans l'entre-deux entre l'Asie et l'Europe. Bien sûr, c'est objectivement vrai, mais c'est encore beaucoup plus récupéré par eux et construit par eux. Et ça a été construit par ce qu'on a appelé le mouvement de l'eurasisme, qui a été véritablement un mouvement idéologique, si j'ose dire. Autrement dit, c'est une idée qui... les Russes ont été longtemps considérés un peu comme une sous-ethnie aux franges de l'Europe, on les considérait un peu comme asiatiques, on leur renvoyait une image finalement assez raciste d'exclusion, qu'ils ont retourné comme un gant à la fin du 19e et plus encore avant la Révolution, hein, d'ailleurs, ça c'est encore dans les années 1905-1906 et à la veille de 1917. Ils l'ont récupéré, et c'est la phrase célèbre, « Oui, nous sommes des Scythes, oui, nous sommes des Asiates aux yeux bridés, et vous allez voir ce que vous allez voir. » Ça, c'est le célèbre poème d'Alexandre Bloch. Autrement dit, ils ont récupéré cet asiatisme, cet eurasiatisme, comme une espèce de force pour s'opposer à une Europe, si j'ose dire, pourrie. Par exemple, ça apparaît bien dans un propos de l'écrivain russe Merezhkovski, qui dit « Nous avons cru que la Russie était une maison, mais c'était une tente », on ne saurait mieux dire. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça, dont on pourrait parler très longtemps? Parce qu'on assiste actuellement dans la Russie tout ce qu'il y a de plus contemporaine, et on va en parler sûrement quand on parlera des problèmes de la Géorgie, à la résurgence d'une sorte de néo-eurasisme qui rêve de supprimer à nouveau les frontières, comme du temps de la steppe, qui rêve de reconstituer d'une certaine manière ce qu'a été l'Empire russe puis soviétique. Autrement dit, cette perception de l'espace, cette présence du nomadisme sur le territoire, un nomadisme que les Russes ont subi avec le joug tatar quand même vraiment dans leur chair, c'est une des composantes de la, d'une partie, évidemment, je ne suis pas du tout en train d'assimiler tous les Russes, mais d'une partie de l'impérialisme russe. Et par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Dugin, qui est un néo-eurasiste absolument redoutable, qui veut voir l'ensemble du continent comme une entité homogène, un bloc continental terrien face à l'atlantisme. Ça donne donc peut-être une des clés permettant de comprendre la position de la Russie, même au Caucase, et aussi la façon dont elle traite les frontières. Il y a une déclaration que vous avez peut-être vue, je crois que c'était dans Libération, de Leontief, qui, justement, niait en quelque sorte les frontières, enfin justifiait complètement l'intervention, notamment récente, des Russes en Géorgie. Intervention d'ailleurs tout à fait intéressante, parce que cette intervention, elle s'est faite en Ossétie. Or, l'Ossétie sont revendiqués par les Russes comme russophones et donc, comment dirais-je, appartenant à leur communauté, l'Ossétie du Sud. Or, les Ossètes, c'est les descendants des Alains, c'est les descendants des Scythes, puisque Ossètes, c'est Os, c'est As et c'est Asioi. Ils sont donc complètement du côté de l'Asie. Vous voyez donc comme tout s'entremêle et le paradoxe. Alors évidemment, loin de moi d'assimiler tout à fait les Russes à des Huns et à Attila, hein, je ne sais pas exactement ce que je veux dire. Encore, je vous signale tout de même que c'est une chose qui n'a jamais été vraiment relevée et qui me frappe toujours, c'est que le mot russe qui signifie l'État, c'est Gosudarstvo. Gosudarstvo, c'est Gosudar, c'est-à-dire le seigneur. C'est comme si nos pays s'appelaient seigneurie, si vous voulez. Alors c'est complètement oublié par les Russes, mais n'empêche que ça reste là. Peut-être d'ailleurs que les Russes sont faux sédentaires, peut-être que leur rapport à la frontière est excessif, soit elle n'existe pas et on peut la violer comme on veut, ça c'est vu, soit c'est le rideau de fer, c'est quand même la grande muraille de Chine, vous voyez, on a le sentiment que le rapport des Russes aux frontières n'est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas exactement notre rapport aux frontières. Alors, j'en arrive, rassurez-vous, à la conclusion. Bien sûr, on pourrait faire un éloge de la négation des frontières, on pourrait faire l'éloge du grand nomadisme, on pourrait faire l'éloge d'une société libre, autonome, dégagée des rouages du pouvoir, puisque la frontière, c'est finalement ce qui matérialise l'espace à l'intérieur duquel le pouvoir est légitimé à mettre en place des rouages qui broient les individus. Il ne faut tout de même pas naturellement idéaliser. Même si, par exemple, je suis très frappée de voir que la mode actuelle de la Mongolie est sûrement liée à cette espèce de fascination qu'exerce pour les super sédentaires qu'à certains égards nous sommes, un monde comme ça où l'espace n'est pas coupé en morceaux, un monde en tout cas où l'autorité, au moins dans l'Antiquité, n'était pas territoriale. Alors vous l'aurez compris, l'utilisation que j'ai faite ici de ce nomadisme vise à nous déconditionner, à jeter sur nos frontières un regard extérieur, ne serait-ce que pour échapper un temps, grâce à cela, à notre condition de borner, de demeurer, si j'ose dire. Comment combiner pouvoir et territoire, c'est la grande question. Et pour achever ma tentative de déstabilisation, je vais faire l'éloge de la frontière. Parce qu'au bout du compte, on peut retourner l'affaire comme un gant. Qu'est-ce qui fait le ciment, la communauté, c'est la frontière. En dernier ressort, au moins actuellement, ce sont les frontières, puisque nous n'avons plus d'homogénéité d'ethnie, de langue, de religion à l'intérieur du pays. La seule chose qui nous reste, c'est la frontière. Et peut-être simplement reste-t-il à inventer des formes nouvelles, plus flexibles, plus fluides, des relations entre pouvoir et territoire. Et puis voir dans la frontière naturellement, non pas ce qui doit être supprimé ou aboli, mais ce qui doit être franchi. Une ligne de démarcation à la fois nécessaire, parce que sinon il n'y a plus l'autre, mais aussi la condition nécessaire à la rencontre d'un autre, tout en étant perméable. C'est pourquoi je terminerai tout à fait paradoxalement par un éloge des frontières. Non pas, bien sûr, celles qui empêchent, qui arrêtent, qui tuent l'élan, non pas celles qui se traduisent par des barbelés, des miradors, des chiens, des barrières, des douaniers, des passeurs, mais celles qui, une fois franchies, donnent accès à l'autre, aux différents, à la différence, et décapent cette espèce de regard au tic, myope, que chacun porte sur soi-même. Finalement, l'éloge des frontières, c'est l'éloge de l'autre, donc on peut se livrer à un éloge des frontières, mais à condition de cesser de diaboliser l'autre en le considérant comme barbare, en cassant le couple, nous et les autres, comme étant le couple, les civilisés, les barbares. Si les frontières sont synonymes d'altérité, si elles sont source de métissage, tant mieux, parce que le monde a besoin d'une sorte d'exogamie culturelle pour éviter une trop grande consanguinité. Peut-être aussi faut-il ces frontières pour nous sauver de l'uniformisation, de la globalisation culturelle, qui risque sinon d'être un sous-produit de toutes les globalisations économiques. Donc vive les mondes sans frontières, vive les nomades, vive les frontières. Je vous laisse dans de beaux draps.